France Inter.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec un homme qui n'a jamais varié dans ses priorités. Depuis plus de 60 ans, Alain Bougrain-Dubourg est le porte-voix de la cause animale, une passion qu'il a rattrapée quand il était enfant et qui ne l'a plus jamais quittée, au point d'y consacrer sa vie à travers des émissions de télévision, des livres, des films et des reportages qui ont fait date, comme ici au Canada en 1977.
Brigitte Bardot décide de se rendre sur la banquise.
Je m'appelle Brigitte Bardot, je suis connue, je vous jure, j'arriverai à faire quelque chose contre le massacre des bébés phoques.
Autre bataille pendant plus de 20 ans dans le Médoc pour les tourterelles contre les chasseurs, on y reviendra là aussi. Aujourd'hui, l'emblématique président de la LPO continue son combat inlassablement pour les oiseaux, mais pas seulement, pour la biodiversité en général. On verra d'ailleurs qu'on peut tous y contribuer, même avec un bout de jardin, coin de balcon. On parlera aussi de la semaine pour une alternative aux pesticides qui a débuté mercredi et de la journée mondiale de l'eau qui a lieu aujourd'hui.
Depuis l'année dernière, on nous bassine qu'il n'y a pas d'eau. On va m'interdire encore cet été de cultiver 3 tomates. En contrepartie, on crée des golfs qui sont une zone de quelques privilégiés.
Et on ira donc dans les Pyrénées-Orientales où ce projet de golf fait débat. À 19h, ce sera le journal d'Hélène Philly. À 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, à 4 mois du début des JO, on s'intéressera à l'aspect social des Jeux de Paris. Car pour la première fois, un pays organisateur s'est doté d'une charte sociale et d'un comité chargé d'en surveiller l'application. Les deux coprésidents de cette charte, Bernard Thibault de la CGT, Dominique Carlac du MEDEF, seront avec nous. Emploi, chantier, sous-traitance, primes, préavis de grève, on abordera tous les sujets. Vous pouvez déjà nous appeler au 01 45 24 7000. Merci à toute l'équipe du 18-20, Mathilde Texier à la préparation, Juliette Gou à la réalisation, merci à notre stagiaire Marie Kévin, à nos standardistes également, ainsi qu'à Julien Dumont, Romain Leborgne et Vincent Désières qui sont à la technique.
Claire Servagen. Une semaine en France.
Bonsoir et bienvenue Alain Bougrain-Dubourg.
Bonsoir.
On est très content de vous recevoir. Vous êtes le président de la Ligue pour la protection des oiseaux depuis 1986.
Oh là là.
38 ans. Mais vos combats sont encore antérieurs, hein, on le verra. On vous connaît depuis longtemps grâce à la télé. Vous avez produit des documentaires animaliers, des émissions qui ont marqué plusieurs générations. Ça a été le cas à la télé, à la radio également, et notamment sur France Inter. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages. Le dernier, c'est le Dictionnaire amoureux des oiseaux, chez Plon, qui a reçu le prix de l'Académie française. Mais votre combat pour le vivant va bien au-delà des oiseaux, Alain Bougrain-Dubourg. C'est un combat pour la biodiversité en général. Elle est plus menacée que jamais, vous diriez ça ?
Oui, on a connu un déclin pathétique dans les années 70, où là on voyait disparaître ce qu'on appelle les espèces emblématiques. C'était notamment la cigogne blanche. Il restait moins de 10 couples de cigognes blanches du côté de l'Alsace. Aujourd'hui, on en a plus de 6000 couples.
Ça veut dire qu'on peut faire des choses.
On peut faire des choses. Il restait une trentaine de castors. Aujourd'hui, il y en a plus de 30 000. Les vautours avaient disparu du ciel cévenol. Aujourd'hui, ils sont un objet, si j'ose dire, de tourisme. Donc, on a réussi à sauver la plupart des espèces emblématiques. En revanche, aujourd'hui, on connaît un déclin, mais dramatique, sur ce qu'on appelle le plus souvent la biodiversité ordinaire. Parce que là, c'est un changement de paradigme total qui nous permettrait de retrouver une renaissance pour le vivant. Un seul exemple, on parle de l'oiseau. L'oiseau est l'indicateur de l'état de la biodiversité. Là où il est en nombre, c'est tout le cortège du vivant, les insectes, les petits mammifères, les batraciens, les reptiles, qui s'épanouit. Là où les oiseaux disparaissent, eh bien, c'est la biodiversité qui s'estompe. Or, dans les 40 dernières années, on a constaté le déclin de 800 millions d'oiseaux.
C'est énorme.
C'est colossal. Et on vit, Claire, on vit hors sol aujourd'hui. Je vais vous donner un seul exemple, celui des mammifères. Au moment où je vous parle, 67% des mammifères qui peuplent la planète, c'est le bétail de l'homme. Les vaches, les cochons, les ovins, les caprins, etc. 30%, c'est vous et moi, sont les bipèdes. Il reste 3%, ça fait 97%, il reste 3%. Pour la faune sauvage, de l'écureuil à la baleine bleue, voilà ce qu'on a fait de la planète. Donc on est dans une situation d'alerte et j'ai la conviction, je ne suis pas le seul, par bonheur, qu'on ne vivra pas hors sol, pour plein de raisons. Victor Hugo disait « Le beau est plus utile que l'utile ». Je pense que la nature est si belle qu'elle est indispensable.
En tout cas, on peut faire des choses, vous l'avez dit sur les cigognes, hein, même si aujourd'hui les cigognes elles ne partent plus aussi loin qu'avant.
Puisque, tant mieux, oui.
Voilà, hein, il fait quand même plus chaud.
Elles sont pas forcément... Il y a 1000 cigognes à peu près.
Voilà. On peut tous faire quelque chose, hein, je le disais tout à l'heure, on va prendre un exemple très simple, tout bête. C'est le printemps, depuis cette semaine, la nature se reproduit. La question des haies, vous en parlez à la Ligue pour la protection des oiseaux. Oui. Et c'est quoi votre slogan ?
Ben, surtout, ne rien faire.
Le mieux à faire, c'est de ne rien faire.
Voilà, pour agir, il faut surtout rien faire.
Donc ne pas tailler les haies, ou en tout cas limiter.
On invite à ne pas tailler les haies, sauf pour des raisons de sécurité ou des questions extrêmes, entre globalement le 15 mars et la mi-août. Voilà. On invite à ne plus tondre la pelouse comme on le fait dans les jardins à la française. On en garde un petit bout sauvage. On invite à planter des espèces locales. Voilà. Il y a un potentiel formidable.
Voilà. Et quand on doit couper, on va écouter les conseils de Patrick Thierry. Il est président de l'Association de protection de l'environnement Picardie Nature. Il est avec Florent Vautier de France Bleu Picardie. Un tout petit conseil pour tout le monde.
Il y a quelque chose de très simple à faire. Hein. Vous inspectez votre haie et vous regardez si vous avez des nids. À l'endroit où il y a des nids, vous laissez 2 mètres et vous taillerez à la fin de la période de reproduction. Voilà. Il faut observer la nature plutôt que de la détruire aveuglément.
Pourquoi elles sont indispensables, les haies, Alain Beaugrain-Dubourg ?
Elles ont plein de fonctions. Elles retiennent l'eau. Vous savez, quand vous avez des zones, regardez les zones inondées, bon, il y a une multitude de raison, mais il y a aussi le fait qu'on a perdu toutes les haies qui retiennent l'eau, qui sont des lieux d'accueil pour les espèces qui vont lutter contre les ravageurs, qui permettent de limiter l'érosion des sols, etc. Or, actuellement, on a 25 000 kilomètres de haies qui disparaissent chaque année. Et alors qu'on espérait que le ministère de l'Agriculture maintiendrait l'interdiction de traiter les haies du 15 mars à mi-août, eh bien on vient d'apprendre avant-hier qu'il reportait cette interdiction à la discrétion des préfets à partir du 15 avril. C'est-à-dire qu'en pleine période de reproduction des oiseaux qui sont en déclin, on va s'amuser à tailler les haies. Alors on a bien conscience qu'il y a des cas extrêmes de sécurité sur la route, que sais-je, où c'est nécessaire.
Et puis il y a eu peut-être des conditions climatiques particulières, hein, c'est l'argument qui a été avancé dans certains départements par les
c'est
agriculteurs.
Pas faux. Oui, mais je ne vois pas l'intérêt, parce qu'il y a eu des inondations, de reporter la possibilité de protéger les haies au 15 avril et non pas au 15 mars.
Alors il y a évidemment la grande question de l'agriculture, ça c'est la grande question du moment. On va en parler dans 3 minutes, mais d'abord on s'arrête sur l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Juliette Gou à la Une, une opération d'ampleur contre le narcotrafic à Marseille, avec la visite surprise du chef de l'État.
C'était la question, vous en pensez quoi ? Qu'est-ce que vous voulez faire ?
Ce qu'on est en train de faire, c'est une opération de lutte contre le trafic de drogue et tous les trafics. Donc là, il y a eu des très grosses opérations hier qui va durer plusieurs semaines.
Une opération baptisée PlaceNet XXL.
Hier soir, il y avait même un hélico ici.
On en a souvent des descentes, pas besoin d'avoir aussi tout ce tralala.
Mais les habitants ne se font guère d'illusions. Ils pointent aussi la responsabilité des consommateurs de drogue.
Moi, j'en veux aussi aux gens qui viennent acheter. Et en plus, c'est en général que des gens aisés, des gens avec de belles voitures. C'est pas la même population.
Mardi, journée d'action dans la fonction publique.
Nous, on veut bien participer aux JO, mais il y a un moment, il faut aussi entendre que ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de revalorisation salariale.
Alors, dans les manifestations, beaucoup réclament une prime pour les Jeux, faute de quoi il pourrait bien y avoir des grèves.
Je les invite à venir travailler H24 à l'hôpital. Et donc voilà, je n'ai pas envie de faire une trêve pendant les JO pour montrer que Paris est beau, tout se passe bien, qu'il n'y a pas de crise sociale en France. Non, non, c'est tout l'inverse qui se passe, quoi.
Le gouvernement préfère communiquer sur la situation budgétaire en mettant en avant la lutte contre la fraude.
Nous n'avons jamais autant traqué la fraude.
Le Premier ministre Gabriel Attal.
Les résultats dépassent tous les objectifs que nous nous étions fixés pour l'année dernière.
Bruno Le Maire, lui, a d'autres idées pour faire des économies.
Il faut un dispositif d'assurance chômage où on touche à la durée. Et je pense qu'il faut laisser l'État gérer ce sujet.
Réponse cinglante de la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet.
Ce que j'ai envie de dire à Bruno Le Maire, c'est que, visiblement, il n'a pas compris qu'il n'est ni ministre du Travail, ni Premier ministre.
Dans moins de 3 mois, les européennes, la France insoumise a choisi Villepinte, en Seine-Saint-Denis, pour son premier meeting de campagne, avec un appel à la mobilisation.
Peuple des cités populaires, peuple de la jeunesse, si vous vous abstenez, vous votez Macron et Le Pen.
Marine Le Pen qui accuse Emmanuel Macron de provocation à propos du choix d'Aya Nakamura pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris.
Elle chante pas français, elle chante d'ailleurs pas étranger non plus, elle chante on sait pas quoi.
Oh dja dja, oh, y'a pas moyen dja dja.
C'est du n'importe quoi, en fait ça représente la France, ça me déplaît.
Une bonne nouvelle pour l'environnement. La France a accéléré la baisse de ses émissions de gaz à effet de serre en 2023.
Depuis 20 ans, la qualité de l'air dans notre pays s'améliore.
Hasard ou coïncidence, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, annonce la fin des ZFE, les fameuses zones à faible émission, à Marseille, Strasbourg et Rouen.
Au 1er janvier de l'année prochaine, seuls Paris et Lyon seront tenus d'appliquer le calendrier concernant les véhicules critères 3.
Soulagement pour les automobilistes concernés, mais déception pour le président de l'association Respire, Tony Renucci.
Il faut arrêter de justifier le fait de ne pas appliquer pleinement la ZFE par le fait que la qualité de l'air s'améliore. Elle s'améliore, mais elle reste mauvaise.
Lui a inspiré un grand coup en apprenant qu'il venait de décrocher le prestigieux prix Abel de mathématiques. Le français Michel Talagrand, spécialiste des probabilités, n'avait sans doute pas anticipé celle-là.
C'est même une récompense un peu difficile à porter. Je transpire.
C'est votre première barquette de fraises de l'année ?
Eh oui, c'est la première déjà.
Le printemps au rendez-vous cette semaine.
On en a marre, hein, des citrouilles et des gratins et du chou-fleur. On a envie de printemps. Ce changement de saison, là, il est porteur de plein de bonnes choses.
Une semaine en France, toujours en compagnie du président de la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, qui agit tous azimuts pour la biodiversité. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir à l'un ou l'autre de ces sujets, Alain Bougrain-Dubourg.
Non, je voudrais rendre hommage à Christophe Béchu, pour tout vous dire. Je fais le bras de fer avec lui en permanence, mais je trouve qu'il ne démérite pas et c'est pas évident dans un contexte où tout concourt à faire reculer l'environnement. Donc c'est un poste essentiel, pas facile à gérer. J'ai l'impression qu'il fait au mieux, mais je suis pas content quand même.
Je sais pas si vous allez dire la même chose de Gabriel Attal, qui a reçu les agriculteurs cette semaine, qui va les recevoir encore lundi, puisqu'il y a un projet de loi qui doit être adopté en Conseil des ministres la semaine prochaine, qui est le congrès de la FNSEA aussi. Vous avez, avec d'autres associations environnementales, vous avez été reçu par Gabriel Attal la semaine dernière.
Oui.
C'était la première fois depuis toutes les fameuses annonces faites aux agriculteurs. Comment ça s'est passé, Alain Bougrain-Dubourg?
Écoutez bien, parce que Gabriel Attal est à l'écoute, incontestablement. Mais je lui ai indiqué qu'il nous avait traités par le mépris. On est 9 ONG représentatives, la LPO, France Nature Environnement, le WWF et d'autres, tournés vers la biodiversité pendant toute la crise. Il nous a traités par le mépris. On est quand même au Conseil National de la Biodiversité. On est au Conseil National de la Transition écologique. Pas un regard sur la biodiversité mise en cause dans toute cette affaire agricole. J'ai tellement la conviction que ça n'est pas en sacrifiant la biodiversité qu'on sauvera les paysans les plus pauvres auprès desquels on se trouve le plus souvent. Eh bien, en revanche, on constate que toutes les mesures ont été prises, on se demande pourquoi et comment. Alors, par exemple, c'est la pause sur le plan éco-phyto, qui quand même vise à réduire de 50% l'usage des pesticides d'ici 2030.
Ça vous fâche, hein?
Mais c'est pas acceptable, c'est la pause sur les jachères. Les jachères sont les derniers petits sanctuaires qui accueillent la faune sauvage. Enfin, parmi les derniers, la pause sur les zones humides qui ont déjà perdu 60% de leur potentialité écologique. La pause sur le plan haie. On devait avoir toute une opération visant à regagner, reconquérir 50 000 km de haies. C'est la pause. La pause sur l'Office français de de la biodiversité et sa police de la nature. Des hommes admirables, compétents, à l'écoute de l'intérêt général. Et on dit, on va les désarmer. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça?
Alors, vous avez écouté Gabriel Attal, est-ce qu'il vous a entendu?
Alors, la première des choses, c'est que j'ai demandé, j'avais le souvenir, je suis un vieux monsieur maintenant, avec Jean-Pierre Raffarin, quand il était Premier ministre, je lui avais demandé une rencontre tous les mois. Et il avait accepté. On parlait d'écologie, d'environnement. Bon, j'ai demandé une rencontre tous les deux mois, Gabriel Attal, et il a accepté le principe. Donc, c'est un esprit d'ouverture qui nous intéresse. Mais tout se passe au château, hein, il faut pas rêver.
Et Emmanuel Macron, d'ailleurs, il vous a reçu déjà ou pas?
Oui, moi je l'ai rencontré en tête à tête, je ne suis pas sûr qu'il ait la fibre environnementale. Évidemment, il a compris que c'était une priorité. Je suis au Conseil National de la Refondation. Notre première plénière a porté sur la question climatique. La seconde plénière a porté sur la biodiversité, notamment parce que je lui en avais parler. Et donc, il est ouvert. Mais ça ne suit pas. Ça n'est pas... Vous savez, quand il est aux côtés des chasseurs et qu'il pense ainsi reconquérir la ruralité, c'est qu'il n'a pas compris que les néo-ruraux sont des gens naturalistes, qui aiment le calme, qui aiment la beauté de la nature, voilà, et qui aiment vivre dans un lieu de qualité, même si les services publics font souvent défaut dans la ruralité.
Alors, vous parliez il y a un instant de Christophe Béchu, en rendant hommage à son action. Il se trouve que ce matin, il a pris ses distances avec un projet de golf dans les Pyrénées-Orientales. C'est un projet qui a lieu à Villeneuve de la Rao, un département qui souffre d'une sécheresse historique dans cette commune. Ce projet fait débat, même s'il s'agit de réutiliser des eaux usées. Samedi dernier, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées contre ce projet. C'est un reportage de Clotilde Jupon de France Bleu Roussillon.
Allô la Terre, plus tard on veut boire. Sur toutes les pancartes, on pouvait lire l'inquiétude des manifestants à cause de la sécheresse et de ce projet qui se concrétise. Des milliers de personnes sont contre, comme Pierre. Il est venu donner du poids à l'opposition.
C'est une journée où on est un petit peu unitaire, quoi, dans ce combat. Parce que c'est une honte comme ça de faire un golf à ce moment-là, quoi. Depuis l'année dernière, on nous bassine qu'il n'y a pas d'eau. On va m'interdire encore cet été de cultiver 3 tomates. En contrepartie, on crée des golfs qui sont une zone de quelques privilégiés.
Parmi les manifestants, plusieurs aimeraient plutôt qu'une ceinture verte se crée, c'est-à-dire que ces friches deviennent un parc protégé dont tout le monde pourrait profiter.
Je pense qu'il faut des sas de verdure. On n'est pas obligé de bétonner et d'y faire des constructions.
L'idée de construire 600 nouveaux logement et un hôtel en plus du golf, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Yaël. Alors il a fait de la route pour défendre la nature.
En fait, on peut plus laisser passer comme avant, on peut plus laisser fabriquer, faire n'importe quoi. Il faut agir maintenant et il faut arrêter les projets aberrants, quoi.
Après ce rassemblement d'ampleur, ils attendent désormais une réaction du préfet des Pyrénées-Orientales, mais aussi du gouvernement.
Voilà, donc la réaction du gouvernement est venue ce matin par la voix de Christophe Béchu, mais tout à l'heure, on a entendu que la justice a débouté les associations.
Elle donne raison aux promoteurs, semble-t-il. Alors, on doit dire que les organisateurs de golf ont fait des efforts énormes, beaucoup d'entre eux, mais c'est pas acceptable ce qui se passe dans cette localité. Qui va être accompagné, ce projet, de l'artificialisation que l'on combat aujourd'hui. Donc, effectivement, je pense que c'est pas raisonnable et il faut entendre aussi la voix du peuple.
Voilà, alors aujourd'hui, je disais, c'est la journée mondiale de l'eau. La question des méga-bassines revient sur le devant de la scène, hein, puisque les soulèvements de la Terre ont annoncé de nouvelles actions. Vous aviez pris position, la LPO, l'année dernière, au plus fort de ce qui s'était passé à Sainte-Soline.
On était présents, notre siège est à Rochefort, donc les Deux-Sèvres, c'est pas loin, on connaît bien cette zone. Pourquoi ? Parce que ces bassines gigantesques affectent notamment des zones de reproduction d'une des espèces les plus menacées de France, l'outarde canepetière, et qu'en plus, ça n'était pas raisonnable dans la démarche. Et enfin, parce qu'il y avait eu des engagements des agriculteurs à notamment réduire, en compensation de la captation d'eau, l'usage des pesticides qu'ils n'avaient pas fait. Ce qui est évident, tous les hydrologues nous le disent. Écoutons la science, ils nous le disent. Ce qui est évident, c'est qu'il faut repenser les méthodes de culture et voilà, davantage que de s'accrocher pour poursuivre avec du maïs qui a besoin d'eau dans des endroits où il n'y en a plus.
Alors, on va parler maintenant un petit peu de la LPO, Alain Bougrain-Dubourg, première association naturaliste de France. 70 000 adhérents,
ouais.
650 salariés. Ouais. J'ai découvert que cette association, un de ses premiers combats, l'association née en 1912, c'était contre les chapeaux ornés de plumes. Que de chemin parcouru depuis.
Oui, Dieu sait. Et les femmes n'ont pas démérité parce que ce sont elles qui se sont battues contre la mode des chapeaux à plumes, où il y avait même des nids sur les chapeaux de ces dames. Et pour satisfaire...
Ah ben oui,
on refabriquait des nids avec des plumes qui dégoulinaient de tous les côtés. On allait chercher les oiseaux en Asie du Sud-Est, en Australie, en Nouvelle-Zélande, où il y avait les oiseaux lyres, ou en Amérique du Sud, où il y avait des aigrettes, etc. Et ça a été un massacre. Il y avait 600 entreprises en France de plumasserie, voilà, de l'usage de la plume. Et par bonheur, la mode a aidé à réduire le massacre.
Alors,
voilà, en perdant
bien sûr, cette mode. Votre action à LPO, elle dépasse largement les oiseaux. Hein. On l'a entendu, là, par exemple, cette semaine, vous êtes monté au créneau pour le loup. Vous avez d'ailleurs lancé
une pétition. En 3 jours, avec d'autres associations de protection de la nature, on a réuni plus de 70 000 signatures en 3 jours. Voilà, on poursuit parce que on ne veut pas que le loup perde son statut d'espèce protégée, qui est le projet de l'Europe.
Vous êtes présent sur de nombreux sujets et surtout vous êtes vous-même chargé de la gestion de certains territoires.
Oui, on gère des réserves, beaucoup. Et pourquoi on s'intéresse à l'ensemble de la biodiversité? Parce que l'oiseau tout seul, ça n'existe pas. Quand j'ai porté la directive oiseau, je me souviens, c'était les débuts de la LPO pour moi, on a ensuite porté la directive habitat. Ce sont deux directives essentielles de la biodiversité aujourd'hui en Europe. Eh bien, l'idée était de protéger l'habitat pour sauver l'oiseau. Et en vérité, vous rendez compte que c'est un cortège du vivant qui nous intéresse. Donc la LPO, dans ses statuts, a élargi à l'ensemble de la biodiversité. C'est pour ça qu'on s'est battu contre le massacre des dauphins par des pêches inappropriées et qu'on a pu gagner devant le Conseil d'État.
Voilà, alors on va revenir sur certains de vos combats, Alain Bougrain-Dubourg. On va voir ça dans trois petites minutes. Le temps d'écouter Émilie Loiseau. Logique.
Oui.
Thank you.
Sur la rivière, il pleut de l'or. Entre mes bras, je serre ton corps. Tu es là, à l'autre bout du monde. Je te rejoins quand je m'endors, mais je veux te revoir encore. Où est-il?
L'autre bout du monde, Émilie Loiseau, choix musical signé Djoubaka.
France Inter, le 18-20. Claire Servageant.
Toujours en compagnie du président de la LPO, Alain Bougrain-Dubourg. Il y a quelques années, Alain Bougrain-Dubourg, vous avez publié vos mémoires aux éditions La Martinière, un livre que vous avez intitulé « Il faut continuer de marcher ». Je crois que c'était Théodore Monod qui vous avait
oui,
soufflé ça dans l'oreille.
Sur son lit de mort, quelques heures avant qu'il s'éteigne, j'avais été le voir et figurez-vous qu'il avait les lèvres gercées comme s'il venait de traverser une nouvelle fois le désert. Il était tellement faible et fatigué. Il avait beaucoup de mal à parler, alors je lui parlais, il me serrait le bras en guise d'acquiescement et puis il m'a soufflé à la fin. « Alain, il faut continuer de marcher ».
Voilà, c'est ce que vous continuez de faire. Dans ce livre, vous racontez votre histoire, celle d'un enfant de bonne famille, on peut dire ça, né à Paris en 1948, grandi dans les beaux quartiers, milieu mondain même, comme vous l'écrivez, puisqu'on vous a appris à faire le baise-main. Oui. Votre père résistant a été élu député à la Libération. C'était un grand voyageur qui voulait le meilleur pour ses enfants et qui, on peut le dire, était particulièrement sévère. L'école, Alain Bougrain-Dubourg, c'était pas votre fort. Résultat, vous vous êtes retrouvé pensionnaire à La Rochelle et c'est là qu'en fait tout s'est joué. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le Muséum d'Histoire Naturelle juste à côté?
Oui, juste à côté du lycée. J'étais un gamin timide. J'avais 10 ans, aller en pension à 10 ans.
Vous savez,
quand on est dans du coton, c'est un peu dur. Alors j'allais me réfugier au muséum et je découvrais là, il y avait la fameuse girafe du Pacha d'Égypte qui avait été donnée à la France. Bon, il y avait des serpents, des vipères à cornes du désert, vivantes celles-là, et j'étais passionné, donc j'allais régulièrement.
Et puis ce que vous avez fait aussi, vous avez installé une sorte de ménagerie dans votre casier au pensionnat.
Oui,
et c'était pas n'importe quelle bestiole que vous avez mis dans votre casier.
Oui, parce que les préparateurs du muséum de La Rochelle ont eu la gentillesse, en voyant ce gamin se promener, de lui ouvrir les coulisses. Et j'ai ainsi appris à faire, à 12 ans, de la taxidermie, empailler les animaux. Mais surtout, j'allais chercher des serpents avec eux, des vipères et des couleuvres, du côté de la Palisse, près de La Rochelle. Et donc, j'en ramenais quelques-uns dans mon
serpents,
casier.
Des grenouilles, des lézards, voilà. dans le casier du pensionnat.
Voilà. Et puis, j'avais créé un club des jeunes amis des animaux. Donc, on récupérait quelques animaux. Alors, c'est vrai que des serpents sont échappés. Enfin, ça crée des drames.
Des tas d'aventures. À 18 ans, Alain Bougrain-Dubourg, vous êtes revenu à Paris. Votre père va finir par vous mettre dehors avec votre ménagerie. Vous êtes allé chez des copains à droite à gauche. Et puis vous avez obtenu un prix, celui de la Fondation de la Vocation. Ça a été quelque chose de marquant, d'important.
Oui, prodigieux, parce que j'avais rien. Je n'ai d'autre diplôme dans la vie que mon permis de conduire, pour tout vous dire. Alors, vous vous rendez compte, c'était grâce à Jean Rostand qui m'avait rencontré, qui m'avait accueilli très gentiment, et surtout à Marcel Blochstein-Blanchet, qui avait cru en moi. Aujourd'hui, c'est Elisabeth Badinter qui est présidente de la Fondation de la Vocation. Et pour un gamin de 19 ans, qui est un peu rejeté de partout, qui doute même de lui, mais qui se dit « il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre objectif, il n'y a pas d'autre lumière que les animaux, la faune sauvage, je ne savais pas comment », et on lui dit « bah oui, ça va être possible
voilà. ».
Donc ça m'a donné un peu de moyens, parce qu'on donne de l'argent à la Fondation de la Vocation, et surtout une crédibilité, et je suis devenu administrateur de cette fondation.
Enfin, voilà, et puis c'est ce qui, après, vous a permis de faire tout ce que vous aimiez. Vous en êtes arrivé à faire des reportages animaliers, à produire des émissions de télévision. Je le disais, certains de vos documentaires ont fait date, et on pense évidemment celui consacré au bébé phoque au Canada, avec Brigitte Bardot, couchée sur la banquise en 1977.
Ces interventions auprès des gouvernements ou du grand public ne donnant pas assez de résultats, Brigitte Bardot décide de se rendre sur la banquise.
Je m'appelle Brigitte Bardot, je suis connue, et cette célébrité, je la mettrai au service de ce que je suis en train d'entreprendre maintenant. Et je vous jure, j'arriverai à faire quelque chose contre le massacre des bébés phoques.
Voilà, Brigitte Bardot, dont vous avez partagé les combats et même la vie, Alain Bourbon-Dubourg. Et grande histoire d'amour.
Oui, ça a duré 7 ans et on s'appelle toujours. Et voilà.
Et qui s'est terminé le jour où elle vous a demandé en mariage. C'est pas banal quand même.
Je pensais pas que vous me poseriez des questions.
Ouais, voilà, c'est comme ça, une semaine en France.
Ben oui,
on farfouille le passé.
Mais on reste d'une grande, grande complicité.
Voilà. Faut dire que vous étiez toujours par Mons et par Vaud toute votre vie. Hein. Vous avez bougé un petit peu partout, ce qui vous a pas empêché d'être un grand romantique, Brigitte Bardot. Mais je veux quand même citer ce qui s'est passé avec Jane Manson pour montrer à quel point vous êtes un grand romantique, parce que elle vous avait dit les princes charmants qui surgissent sur leur cheval blanc, ça n'existe plus. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire?
J'ai demandé à mon pote Mario Luracci, qui est le cascadeur à cheval, de me prêter un cheval. Elle habitait place du Trocadéro, pas loin, et je suis arrivé à 11h du soir à cheval, habillé de blanc sur un cheval blanc, en lui disant, tu vois, le prince charmant, il existe.
Voilà ça.
Alors on a une fille après, ensemble, la petite Marianne.
Une petite Marianne, née en 88. Parmi vos combats, donc il y a eu les bébés phoques avec Brigitte Bardot, puis on a tous en mémoire vos actions en faveur des tourterelles dans le Médoc. Là aussi, ça a fait date, les chasseurs qui chassaient malgré tout. Et vous, vous en avez fait un combat emblématique, comme ce jour où vous aviez embarqué dans votre voiture Sophie Marceau et Théodore Monod. C'était le 19 mai 1991, extrait d'un reportage de FR3.
Cible favorite, la voiture d'Alain Bougrain-Dubourg et de Sophie Marceau, vitre hermétiquement close. La tension est extrême. Amorce de discussion, dialogue de sourds.
Il va se passer qu'il va rester coincé là. Voilà ce qui va se passer. Parce que quand on lui parle à ce monsieur, il se prend pour le patron. Il ne veut même pas écouter le colonel et le gendarme. Il ne veut rien écouter.
Vous avez une attitude irresponsable en incitant à délit et à la chasse.
De guerre lasse, les opposants battent en retraite. Les chasseurs ont gagné. Une heure plus tard à Bordeaux, rejoint par Brigitte Bardot et Anémone, l'amertume est vive.
On n'a pas pu avancer, ce sont les braconniers qui ont les droits ici, qui ont la raison. Il y a une corruption totale de la part des gouvernements, du préfet, de la police donc. Et on se dit, mais est-ce que c'est en France qu'on vit? Enfin, c'est pas possible.
Nous sommes en train d'essayer, nous, de faire appliquer une loi française et européenne qui n'est pas appliquée dans notre pays, la France.
Malgré leur échec, tous ont la ferme intention de revenir encore et encore jusqu'au jour où les tourterelles pourront remonter le Médoc en toute quiétude.
Et vous avez fini par obtenir gain de cause.
Oui, il a fallu 20 ans, Claire, quand même. 20 ans de combat où le gouvernement français s'est assis sur le droit, c'est-à-dire que on était dans un lieu de non-droit. La chasse était fermée au printemps, au 1er mai. On ne coupe pas son blé en herbe. On ne tire pas en pleine période de reproduction. Et pourtant, on laissait jusqu'au jour où un préfet est arrivé. Il s'appelle Jacques Giraud. Il est devenu un ami et il croyait que c'était une habitude, le 1er mai. Mais il y avait le discours du Front National, les syndicats et Bougrain qui prenaient des baffes. Bon, globalement, ça se résumait à ça. Quand je lui ai expliqué la situation avec la LPO, il a mis un terme en 3 ans à cette affaire.
Et il a fini par faire respecter l'interdiction.
Voilà.
Et ça, d'ailleurs, ça a toujours été vos combats, hein, aller en justice et faire respecter...
Oui, on a gagné... Alors ça a pris 20 ans, c'est pour ça que je suis resté président. Je me dis, j'irai jusqu'au bout. Après, il y a eu l'ERICA en 99, où là, on a eu 10 ans de procédure, à l'époque j'avais dit à notre avocat François-Xavier Kélidjian que on indemnisait le vivant commercial, c'est-à-dire les coquillages, les crustacés, le manque à pêcher, mais le vivant non commercial, c'est-à-dire le phoque, l'oiseau, la tortue, ils étaient laissés sur le bord du chemin. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer le préjudice écologique qui aujourd'hui, après 10 ans de procédure jusqu'en cassation, eh bien on a gagné et il est dans le code civil. Et il a élargi évidemment sa fonction ailleurs que sur les variétés, les espèces marines.
Ça fait partie de vos grandes fiertés, ça.
Oui, je peux le dire. Oui, vraiment. Mais vous savez, c'est pas... Je suis désolé à la première personne, mais ça n'est que du collectif. Voilà. Parfois, on est une poignée, mais on peut être aussi 71 000, comme c'est le cas à la LPO en ce moment.
À la LPO, effectivement, première association naturaliste de France. Sinon, vous avez parcouru le monde entier, Alain Bougrain-Dubourg, rencontré les plus grands, puisque vous avez, notamment pour tous ces documentaires, et juste un petit conseil à ceux qui ne l'auraient jamais vu, je conseille votre bêtisier, hein, qui est quand même absolument délicieux. Il y a donc vos films, vos livres, votre passage ici à France Inter, hein, l'émission Vivre avec les bêtes. Et puis, je voudrais juste citer quand même aussi le dictionnaire amoureux des oiseaux, puisque ça c'est votre dernier livre chez Plon qui a eu le prix.
Le prix de l'Académie française, je suis très honoré, évidemment, et c'est un bouquin qui marche très bien. C'est une collection très agréable parce qu'on propose à l'auteur de finalement donner son regard propre, personnel, à travers son expérience sur le thème en question, et là sont les oiseaux.
En tout cas, on y apprend plein de choses, hein, sur les différentes espèces, sur la vie des oiseaux. L'accouplement des oiseaux, évidemment.
Ils n'ont pas de sexe. C'est un peu compliqué, il faut lire le livre.
Vous expliquez ça très bien. Il y a aussi de très belles citations de vous, notamment. Hein, j'en ai retenu quelques-unes. Le martinet ne joue les fouettards qu'avec le vent. C'est charmant.
Oui.
Quand on a un appétit d'oiseau, un caractère de cochon et un mal de chien, mieux vaut consulter son vétérinaire au plus vite. Ça aussi, c'est de vous, Alain Bougrain-Dubourg. Et puis, j'aime beaucoup aussi, mieux vaut être une poule mouillée qu'un canard laqué. Ça c'est effectivement bien sympa. Le dictionnaire des oiseaux chez Plon. Je voudrais qu'on termine en donnant peut-être les prochains événements prévus par la LPO pour tous ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a des choses absolument partout. Il y a les refuges de la LPO. Il y a aussi toutes vos actions en matière d'éducation à l'environnement, de sensibilisation du grand public.
Oui, c'est énorme. On est en train, enfin, parmi les choses qui me viennent à l'esprit, on est en train de faire un MOOC avec l'École nationale de la magistrature pour éclairer les futurs magistrats au respect de la biodiversité. Entre autres choses, et puis il y aura au mois de mai le comptage des oiseaux des jardins, très important, avec le Muséum national d'histoire naturelle.
Voilà. Et ça veut dire ceux qui ont un grand jardin, mais vous dites même un petit bout de balcon, on peut...
Oui, on peut créer un refuge LPO. Pardon, on en a près de 50 000 en France actuellement. Ça représente 60 000 hectares. Et le dernier que j'ai inauguré, c'est l'Assemblée nationale. Voilà, on a le ministère de la Transition écologique et en principe Matignon dans pas longtemps. On est en train de réfléchir.
Alors c'est quoi justement ces refuges?
C'est tout simplement un accord avec des particuliers, avec des établissements publics, où on s'engage à valoriser la biodiversité. La LPO donne des conseils pour aménager une mare, pour mettre des hôtels à insectes, pour mettre des nichoirs, des mangeoires. On favorise l'épanouissement de la biodiversité. Donc nous, on donne les conseils et le propriétaire suit nos conseils. Voilà. Et ça marche.
Et ça, c'est faisable.
C'est génial.
Donc en ville aussi, puisque...
Bien sûr, en ville, on a beaucoup de jardins, dans toute la France, de jardins publics et de jardins d'entreprise également, voilà.
Donc la LPO, ça fait 38 ans que vous êtes à la tête de cette association.
Je cherche un président.
Alain Bougrain-Dubourg, vous n'êtes pas prêt de...
Bon, écoutez, il va falloir passer.
On a besoin de vous de toute façon.
Ah, hein,
c'est quand même une extraordinaire aventure. On renvoie évidemment à votre site, sur la page de l'émission. On renvoie à votre dernier livre, Dictionnaire amoureux des oiseaux. Un très grand merci, Alain Bougrain-Dubourg, d'être venu ce soir sur France Inter.